Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans Crunch, le podcast rugby de l'équipe. Une victoire contre le Pays de Galles, un score record au Millennium 45-24 et un jeu séduisant. On a enfin passé un bon week-end de 6 nations devant un match de l'équipe de France. Alors les Bleus sont-ils de retour? Est-ce de bon augure avant France-Angleterre samedi soir? Qui est le favori de ce crunch au goût de revanche? Faut-il avoir peur des Anglais qui ont, eux, réussi à battre l'Irlande? On va en débattre avec les journalistes rugby de l'équipe, Laurent Campistron et Jean-François Patureau. Bonjour messieurs.
Salut Léa, bonjour. Salut à tous.
Et avec Guillaume Dufy qui est à Londres au plus près du 15 de la Rose. Bonjour Guillaume.
Bonjour.
Crunch, c'est parti. Flexion, liée, jeu. On avait quitté les Bleus il y a 2 semaines sur un très décevant match nul contre l'Italie et avec le moral dans les chaussettes. Et puis finalement, ils se sont réveillés. Ils ont ramené une victoire à 5 points de Cardiff et un peu d'espoir aussi. Alors ce succès, ce n'est qu'un sursaut ou c'est vraiment une nouvelle période qui s'ouvre pour le 15 de France, Laurent ?
Oh, j'ai plutôt envie de dire que c'est peut-être une nouvelle période qui s'ouvre. En tout cas cette équipe a montré beaucoup plus de choses que sur les 3 premiers matchs du tournoi. Il y a eu évidemment l'intégration de quelques nouveaux joueurs qui ont apporté leur enthousiasme, leur fraîcheur et surtout leur audace. On l'a vu à plusieurs reprises sur des gestes un petit peu fous sur le terrain. Je pense évidemment à la Chistera de Le Garec, mais pas que. Il y a eu aussi des relances du fond du terrain qu'on ne voyait pas forcément beaucoup sur les précédents matchs. Donc tout ça amène un vent de fraîcheur qui pourrait évidemment se perpétuer dans les mois qui suivent. Déjà de la semaine prochaine, je pense, en Angleterre. Alors de là à dire que tous ces jeunes dont on parle sont d'ores et déjà installés, il y a quand même un grand pas, parce qu'il va y avoir quand même quelques tauliers qui reviendront d'ici peu. Et donc on verra à ce moment-là. En tout cas, ils ont marqué des points pour l'avenir.
Laurent, Jean-François, vous étiez au Millennium dimanche. À quoi on pouvait mesurer le soulagement des joueurs et du staff après cette victoire probante?
Il y avait quand même pas mal de sourires. Et c'est vrai que cette phrase, ça fait du bien moralement. C'est la phrase qu'on dit quasiment tous les joueurs. Le staff aussi, après cette rencontre, on a vu des joueurs soulagés. Et c'est vrai que quand on voit Emmanuel Mehafou se balader avec son petit sur la pelouse, qu'on voit les sourires à la fin du match, qu'on voit les sourires à la cérémonie des caps, c'est pas des choses qu'on avait vues ces dernières semaines, parce que c'est vrai qu'on le rappelle, l'équipe de France, tu le disais, a fait un match nul contre l'Italie, mais c'était miraculeux avec une pénalité ratée par Paolo Garbisi à dernière seconde. En Écosse, sans une décision arbitrale un petit peu contestable, litigieuse, en tout cas favorable aux Français, c'était aussi une défaite et on avait commencé par une déroute, une raclée contre l'Irlande. Et c'est vrai qu'on sentait cette équipe de France un peu au fond du seau. Et là, il y a des sourires, on voit qu'il y a un peu plus de confiance, des choses sur lesquelles on peut s'appuyer. Et c'est peut-être un match charnière pour cette équipe de France. Reste à savoir si ce virage, on n'aurait pas dû le faire dès le début du tournoi Destination, ça c'est un autre débat, mais cette équipe de France, là, elle a retrouvé un petit peu de certitude, on a retrouvé l'équipe de France, comme tu disais.
Vous pensez qu'on aurait dû justement faire ce virage plus tôt?
C'est ce que disait en tout cas, avait l'air de dire en tout cas Thomas Ramos à l'issue du match. Hein. Sa phrase exacte, c'était « c'est dommage qu'on se réveille si tard ». Autrement dit, peut-être que ces changements, il aurait peut-être fallu les faire dès le premier match contre l'Irlande, amener du 109, parce qu'il faut se souvenir quand même que cette équipe de France restait sur un gros échec en Coupe du Monde. Et que fortement, tous les joueurs, les cadres, je pense en priorité aux quatre, n'avaient peut-être pas digéré cette déception-là. Peut-être que du 109 d'entrée aurait permis de passer plus facilement cette étape.
Et on rappelle qu'il y a eu des changements, parce que Jonathan Danty est suspendu, il ne pourra plus jouer jusqu'à la fin du tournoi.
Oui, le 109 a été un peu subi.
Oui, c'est ça. Est-ce que ce sont des vrais choix que Fabien Galthié et son staff voulaient faire dès maintenant, ou est-ce qu'ils ont été facilités, entre guillemets, par l'absence de Jonathan Danty, Mathieu Jalibert, avec des repositionnements? Est-ce qu'il fallait le faire avant? Ça, on verra. En tout cas, sur ce match-là, il y a des choses intéressantes. Ouais.
Pendant la semaine avant le match...
Je suis surpris par l'optimisme de mes petits camarades, quand même. Alors, évidemment, c'était bien beau, ce qu'on a vu.
Ça y est, voilà, l'ami des Anglais, là, il se réveille.
Mais non, Jean-François, tu sais bien.
Allez-y, Guillaume.
Que je ne suis pas un fan du rugby anglais, même si j'ai le bonheur de suivre cette équipe depuis plusieurs mois. Mais il ne faut pas oublier non plus que cette équipe galloise est la pire du tournoi. Qu'elle prend des raclées depuis le début de la compétition, qu'elle est en manque de certitude, comme l'équipe de France. Alors effectivement, c'est bien beau ce qu'on a vu de la part des Bleus. C'était plus équilibré, plus frais, avec un pack dominateur. Mais attendons avant de s'enflammer et de parler du nouvel ère qui commence. Moi, je serais comme vous, hyper positif et optimiste samedi soir à 23h si les Français battent à nouveau les Anglais. je trouve qu'on devrait attendre un petit peu.
Oui, certes, tout n'a pas été parfait, mais déjà, on a vu un match plaisant, ce qui n'était plus arrivé depuis quelques semaines. Donc, d'où notre enthousiasme aussi, Guillaume.
D'accord, ok, je comprends. C'est vrai que vous mangez du pain noir depuis quelques temps, et là, vous avez eu un peu de caviar à table. Donc, voilà, je comprends.
Et c'est vrai que les Gallois, c'était vraiment très, très fort en face, quand même aussi. Non, c'était pas terrible.
Les pauvres, ils sont en route vers une éventuelle cuillère de bois. Là. Pendant la semaine avant le match, Fabien Galthié a beaucoup parlé de la volonté du staff de mettre de l'émulation, c'est ça le mot, et de l'importance...
D'aller chercher son maillot.
Voilà, selon l'expression consacrée désormais. En gros, est-ce que le staff a voulu secouer son groupe aussi?
Ouais, clairement. Et c'est vrai qu'il y a eu des réunions avec Fabien Galthié et les leaders dès le début de semaine avant cette rencontre face au Pays de Galles, qui a eu une volonté de muscler un peu lisse court avec des séances vidéo un peu plus pointues peut-être que d'habitude. Vouloir aussi mélanger les équipes, bluffer peut-être un petit peu, en tout cas remettre un petit peu de concurrence, même si on a compris rapidement ce qui allait se dessiner dans cette équipe, parce que dès le lundi ou mardi, on savait qui allait jouer avec des tandems qui étaient associés, par exemple Deporter Ficou ou Ramos Le Garec. Mais cette équipe de France avait peut-être besoin d'un coup de boost, travailler à balles réelles à l'entraînement, c'est ce qui manquait depuis le début de ton assignation et c'est ce qui a voulu impulser Fabien Galthié. Ouais.
Est-ce que la méthode du staff, elle va changer durablement, Laurent ?
Je serais étonné qu'il fasse la même chose cette semaine avant l'Angleterre, parce qu'il n'y a aucune raison aujourd'hui de mélanger quoi que ce soit, puisque les 15 qui ont démarré le match, et même les finisseurs d'ailleurs, qui ont fait une très belle rentrée sur le terrain, ont apporté en fait ce qu'on attendait d'eux sur le match de dimanche. Donc je ne vois pas Fabien Galthié reproduire un petit peu les mêmes séances d'entraînement que la semaine dernière. En revanche, il est possible effectivement que cette méthode revienne dans le futur, si jamais il y a un nouvel endormissement qui se produisait dans le futur, quoi, ça c'est sûr. Puisqu'il a vu en plus que ça payait, quoi.
Guillaume,
si je peux me permettre, ce qui s'est passé, cette ouverture sur une nouvelle génération, sur des jeunes joueurs qui brillent depuis le début de la saison, pour moi, il y a deux choses importantes. Ça veut dire peut-être que Galthié va vraiment faire un peu plus attention à la forme du moment, qui est capitale dans le sport de haut niveau. Et cette ouverture va aussi peut-être mettre un coup de fouet à certains joueurs de l'équipe de France qui pensaient être définitivement installés. Je pense notamment à Gaël Ficou au centre, décevant depuis le début du tournoi, et qui, comme par hasard, ce week-end, a été le leader qu'il avait été durant de nombreux mois. Peut-être que voilà, le fait d'avoir un garçon comme Deporter à côté de lui, qui sait aussi jouer 13 et qui joue 13 en club, de voir Gailleton arriver et puis aussi taper à la porte, peut-être que ça va les bouger, les anciens, les cadres, et peut-être, voilà, ça va peut-être les bouger, leur faire le plus grand bien.
Oui, tu l'as dit, il y a du renouvellement. Donc précisément, c'était la première sélection de Méafou, de Deporter et de Barré. La quatrième sélection pour Le Garec, son premier gros match important. Mais on l'a dit tout à l'heure, c'était des choix un peu subis face à des concours de circonstances pour certains. Est-ce que ces joueurs-là, ils ont marqué des points durablement ?
C'est difficile à dire, mais en tout cas, un garçon comme Emmanuel Méafou va s'installer durablement en équipe de France. Ça ne fait pas beaucoup de doute à côté de Thibaut Flamand. Qui a été excellent encore ce week-end, Thibaut Flamand, alors qu'il avait peu joué, très peu joué même ces dernières semaines. Emmanuel Méafou va s'installer sur la durée, ça me paraît une évidence. Est-ce que Nolan Le Garec a gagné sa place comme titulaire? Bon, après, il faudra voir quand Antoine Dupont va revenir. Est-ce qu'il a gagné sa place derrière Antoine Dupont? Est-ce qu'un deux porteur peut s'installer comme ça quand Jonathan Danty va revenir? En tout cas, là, c'est une bonne preuve qu'il peut y avoir encore plus de concurrence. Est-ce qu'un Léo Barré va rester arrière, sachant que Romain Ntama, quand il va revenir, va récupérer le numéro 10 et que logiquement, Thomas Ramos va récupérer le numéro 15? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça va installer plus de concurrence. Mais tu l'as dit, un garçon comme Nolan Le Garec est sans doute l'un des grands gagnants de cette rencontre. Et sur cette génération, sur lui comme les autres, on a l'impression que la pression, ça leur coule dessus, qu'ils sont à l'aise, qu'ils ne se posent pas de questions, à l'image de sa Schistera.
Oui, puis il représente l'avenir de l'équipe de France. Ouais. Il a 21 ans et Maxime Lucu en a 31, donc forcément.
Mais c'est sévère pour Maxime Lucu. Guillaume voulait en parler, mais c'est vrai que c'est sévère pour Maxime Lucu d'être sorti comme ça.
C'est sévère parce que, évidemment, il a mangé, il a été critiqué, il a subi aussi pas mal de menaces et de critiques acerbes sur les réseaux sociaux. Il en a souffert, je crois, mais voilà, sur les trois premiers matchs, le pack n'a pas été du tout dominant, et un neuf ne peut pas exister, vivre, briller s'il n'a pas de ballon propre. Et sur les trois premiers matchs, il n'a pas eu un ballon propre à exploiter. Et vous parliez de Méafou, du retour de Flamand. Bon, ça solidifie un peu les choses et ça fait du bien à cette conquête. Et le Garek, à Cardiff, dimanche, il a eu des bons ballons exploités. Et quand vous avez des bons ballons exploités, c'est quand même plus facile de briller et de jouer comme vous avez l'habitude de le faire.
Les joueurs étaient sous pression avant ce match, mais le staff aussi, parce qu'il commençait à y avoir des critiques sur Galtier et ses expressions un peu nébuleuses, sur le nouveau staff aussi du 15 de France qui a été renouvelé après la Coupe du Monde et qui peinait un peu à prouver ses qualités. Là, ils se sont rassurés.
Oui, forcément. De toute façon, dès que vous gagnez, vous êtes forcément un peu plus confiant et rassuré. Ils avaient vraiment besoin de gagner parce que là, ça faisait, même s'ils avaient gagné en Écosse, mais Jeff l'a dit tout à l'heure, c'était vraiment une victoire à l'arrache. Un essai refusé pour une main invisible placée sous le ballon, bon, c'était vraiment discutable. Après, il y a eu ce match nul vraiment très, très détestable contre l'Italie, 13-13. Encore un miracle que la France ne perd pas à la fin sur la pénalité, sur la transformation ratée de Garbizi. Donc là, il y avait vraiment un besoin urgent de s'imposer pour reprendre confiance et puis aller de l'avant, quoi. Donc le staff était sous pression. Je pense qu'ils ont répondu de la bonne manière en faisant évoluer un petit peu leur méthode à l'entraînement, en injectant du 109, on l'a dit, dans l'équipe. Donc là, mais maintenant, effectivement, comme l'a dit Guillaume aussi tout à l'heure, le dernier match contre l'Angleterre sera hyper important pour l'avenir de cette équipe et de cette méthode qui évolue dans le temps, quoi.
Jusque-là, les Bleus avaient visiblement un problème de confiance aussi. Comment expliquer qu'en deux semaines, ce soit revenu, en quelque sorte ?
Ils se sont dit les choses. Non, mais c'est vrai que c'est... ils ont multiplié les réunions. C'est un peu ce que
j'adore cette expression.
Ah, moi aussi, ça veut tout rien dire. Guillaume, j'ai envie de te dire des choses.
Aussi, au sein de la rubrique, parfois, ouais. On se dit des choses.
Pas toujours agréable, Guillaume. mais c'est vrai qu'il y a eu des discours un peu musclés. Je disais ça tout à l'heure, Patrick Arletaz, après le match nul contre l'Italie, il leur a dit, les gars, mais c'est pas possible aussi. Vous avez beaucoup de séquences de possession, des occasions pour marquer, mais il faut aller au bout. Et peut-être que les joueurs aussi ont pris conscience qu'ils devaient peut-être plus jouer les uns envers les autres, qu'ils devaient peut-être un peu plus se bouger aussi sur le terrain, se replacer, parce que c'était mental aussi depuis la Coupe du Monde et ce quart de finale, mais c'était aussi dans le jeu. On voyait des avants qui étaient d'un côté, les trois quarts de l'autre, il n'y avait pas de lien, etc., de lien. Et c'est vrai qu'on a vu une équipe de France qui s'est un peu reboostée, et peut-être aussi que la présence des nouveaux a apporté un peu de fraîcheur dans cette équipe.
Pour le dernier match du tournoi, les Bleus se retrouvent donc face aux Anglais. Ce sera samedi soir à Lyon. C'est évidemment toujours un match très attendu, comme l'a écrit Renaud Bourrel dans le journal après la victoire au Pays de Galles.
Tu lis ce qu'il écrit, toi ?
Toujours, évidemment. Et pas parce que c'est le chef. Il est intégré depuis toujours qu'un tournoi destination n'est réussi qu'une fois l'Angleterre battue. Est-ce que les Bleus ont une pression particulière avant ce match ? Laurent.
Ils ont l'impression déjà de gagner à domicile parce que ça n'a pas été fait depuis le début de tournoi. C'est quand même une défaite contre l'Irlande et un nul contre l'Italie. Donc ça déjà, pour la confiance et pour surtout faire plaisir aux supporters aussi, c'est important de terminer ce tournoi sur une bonne note en gagnant enfin à domicile à Lyon, puisque le match aura lieu à Lyon.
Et donc, à Décines.
À Décines, pardon, ouais, tu as raison. Ouais.
Non, mais il y a une pression aussi.
Pardon de
t'avoir. Une pression de gagner à domicile, Laurent, c'est sûr, mais il y a aussi une pression en termes de jeu, parce que ce qu'on a vu la semaine dernière, il faut le confirmer. On voit que cette équipe de France, elle est un petit peu dans une période de mutation. On en parlait dans le salon tactique, je me fais mon Alex Bardot, donc je vais faire de la promo. Possession, et repossession, etc. Savoir où on est un peu cette équipe de France, et on a vu un visage un petit peu différent, plutôt séduisant, avec des séquences un peu longues, un enchaînement de séquences qu'on ne voyait pas avant dans cette équipe de France. Il va falloir confirmer contre une équipe d'Angleterre qui est en forme. Et ce match, c'est un peu un match charnière, parce que vous perdez ce week-end contre l'Angleterre, votre tournoi, c'est un fiasco, en fait. Et vous gagnez seulement contre l'Écosse miraculeusement et contre le Pays de Galles qui est très faible. Vous gagnez contre l'Angleterre, les supporters resteront là-dessus et vous pouvez basculer après sur la tournée d'été, la tournée de novembre. Ouais.
Si tu perds, tu finis quatrième, ce qui n'est jamais arrivé depuis l'ère Galtier. Je crois que c'est trois fois deuxième jusqu'à présent, une fois premier avec tournoi du Grand Chelem, enfin un Grand Chelem à la clé. Donc ce serait effectivement un fiasco, quoi. Bah, carrément. Ouais.
Et si victoire contre l'Angleterre, voyons le verre à moitié plein, est-ce qu'on pourra dire que le tournoi est réussi ?
Ça fera une nouvelle deuxième place. Donc, du coup, la quatrième en cinquième édition. Disons qu'ils auront sauvé des meubles plutôt pas mal, puisqu'ils ont terminé par deux victoires, dont une à l'extérieur au Pays de Galles, et battre les Anglais dans le crunch, c'est toujours quand même méritant. Donc, oui, on pourra dire qu'ils ont disons qu'à la base, quand même, quand vous, vous recevez 3 fois sur 5 dans le tournoi, une année paire, comme c'était le cas d'ailleurs il y a 2 ans, on a quand même tendance à dire qu'on doit gagner le tournoi, surtout avec cette génération-là. Quoi. D'ailleurs, c'est presque une anomalie que ces joueurs-là n'aient gagné qu'un seul tournoi depuis, depuis l'arrivée de Galtier en 2019. Alors évidemment, il y a l'Irlande qui est une grosse équipe, mais il me semble quand même qu'on aurait pu le remporter une ou 2 fois de plus. Quoi.
L'an dernier, les Bleus s'étaient imposés à Twickenham, 53 à 10, voilà, victoire à l'arrache. Et vous aviez écrit, messieurs, une des plus époustouflantes partitions jouées par l'équipe de France. Laurent, Guillaume, vous étiez au stade, quel souvenir vous gardez de ce match-là ?
Alors moi j'étais pas au stade.
Bah, bravo. Au stade. Bon, Laurent alors.
Il était dans un pub, je pense, en train de regarder le match.
C'est possible.
Ouais, j'avais juste raté le coup d'envoi, mais j'étais arrivé là. Non, j'étais effectivement, ouais. Donc, un festival, quoi. C'était un match incroyable. 10-53, je crois, de mémoire, le score. L'avènement d'un grand joueur qu'on a encore vu la semaine, ce dernier week-end, qui est Thibaut Flamand, qui avait fait un match, je crois, le meilleur match qu'on ait vu faire jusqu'à aujourd'hui à Twickenham, en tout cas la saison dernière. Et donc, je ne sais plus combien il y avait eu d'essais.
7, je crois, non ?
7 pour les Bleus, un seul pour les Anglais, donc 7-1. Et là, on se disait, ben voilà, quoi, c'était l'équipe de France est partie pour gagner la Coupe du Monde. Quoi.
Tu sens bien le rugby, toi.
C'était le bon temps.
Mais c'est vrai que c'était une démonstration, gagner à Twickenham comme ça, c'est comme dans un rêve, c'est un peu à la PlayStation. C'était tout réussissait à cette équipe de France. Et ça avait un peu plombé cette équipe d'Angleterre, Guillaume va nous en parler, mais c'est vrai que cette équipe d'Angleterre, à ce moment-là, on se disait, mais où est-ce qu'elle va ? Et finalement, elle termine 3e de la Coupe du Monde.
Les temps ont bien changé.
Indeed.
Quels souvenirs ils en gardent, les Anglais, de ce match, Guillaume ?
C'est une défaite qui avait fait énormément mal, comme d'ailleurs toutes les défaites concédées à domicile par les Anglais. Celle contre les Fidji aussi lors de la préparation de la Coupe du Monde avait été très violente à digérer. C'était le début de l'ère Borsui qui récupérait une équipe malade, mauvaise en mêlée, mauvaise en touche. Mauvaise en défense, donc c'était le début de son ère, le début de la reconstruction, de la guérison. Mais je crois que je ne sais pas si les Anglais feront l'erreur de parler de revanche lors de la conférence de presse, mais je pense qu'ils ont envie eux aussi de confirmer ce qu'ils ont réalisé ce week-end, un exploit de dingue, un match de dingue avec une intensité folle. Ils ont envie de confirmer. Alors même s'ils ont été troisième de la Coupe du Monde, un peu à la surprise générale, s'appuyant sur un jeu très minimaliste, ils ont décidé de changer de disque, de jouer de manière un peu plus offensive, sexy, un peu à la French Flair. Ça marche pas tellement bien depuis le début de la Coupe du Monde, même si on voit que l'esprit est là, il y a beaucoup de volonté. Ils ont quand même pris une claque en Écosse. En perdant 30-21. Mais là, il y a eu moins de fautes commises ce week-end contre l'Irlande. Et ça a été tellement beau à voir qu'évidemment, ils ont envie de confirmer. Je ne sais pas s'ils vont s'appuyer sur la revanche et les 53 points pris l'an dernier pour se motiver. Mais ils ont l'air d'être bien décidés à confirmer et à montrer qu'ils sont sur la bonne voie.
Pour en revenir à l'équipe de France et ce match contre l'Angleterre, cette année, sur quoi, sur qui les Français vont s'appuyer pour tenter de battre les Anglais ?
Ouais, j'imagine que encore en flamand met à fou le pack. Globalement, je pense que s'ils peuvent entre guillemets les défoncer devant, ça va commencer par là, non ? Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais...
Oui. Et puis bon, ils vont essayer de poursuivre un petit peu ce jeu un peu plus équilibré entre possession et dépossession qu'ils ont pratiqué contre les Gallois. Quoi. Je crois qu'on a vu enfin effectivement des séquences longues à l'image du premier essai de Ficou. On a vu des joueurs jouer debout. Méafou est remarquable à ce niveau-là. Flamand, n'en parlons pas. On a vu des essais, 5, ce qui est quand même pas mal. Donc voilà, je pense qu'ils vont s'appuyer à nouveau sur tout ça pour essayer d'enflammer la rencontre à Lyon et battre ses Anglais. Ouais.
Donc parlons maintenant plus précisément des Anglais comme les Bleus. Ils ont vécu un début de tournoi compliqué, tu as commencé à en parler Guillaume. Donc victoire contre l'Italie, mais match pénible. 27-24, petite victoire aussi contre le Pays de Galles, puis défaite en Écosse. Et puis cette victoire contre l'Irlande grâce à un drop de Marcus Smith à la dernière seconde. Guillaume, comment expliquer une telle différence entre le début du tournoi des Anglais et cette victoire contre l'Irlande ?
C'est ce que essaie d'expliquer Borswick à longueur de conférences de presse. Après la Coupe du Monde, tout le monde s'est réuni, les joueurs, le staff, et ont décidé qu'il fallait absolument changer de système ou en avoir un autre. On a vu que pendant la Coupe du Monde, les Anglais avaient joué de manière assez monotone, mais plutôt bien, avec une demi-finale perdue d'un point contre l'Afrique du Sud, s'appuyant sur une énorme mêlée, une énorme touche, une énorme défense, et puis un jeu au pied fantastique, des chandelles qui ont percé le ciel français pendant deux mois, la réussite de Ford, les trois drops contre l'Argentine, voilà, le leadership de Owen Farrell. Mais dans le jeu, ils n'ont pas beaucoup marqué d'essais en première main, c'était très lisible. Donc ils se sont dit que si, pour réussir, pour être un peu plus efficace et pour faire mal à un peu plus d'adversaires, il fallait changer et s'appuyer sur un jeu voilà, à nouveau un peu plus sexy. Et donc Borswick, qu'on pensait conservateur, a ouvert aussi les portes et a décidé de s'appuyer sur les gamins de Northampton, le meilleur club anglais depuis le début de la saison, et peut-être le meilleur club européen aussi. Sa campagne européenne est exceptionnelle. Il y a des garçons comme Furbank, Freeman, le Tiffin Smith, le demi d'ouverture, Monkepala, qui est blessé. Il y a Mitchell à la mêlée. C'est des joueurs qui jouent tout le temps. Ça relance de partout, à l'image des deux premiers essais de Furbank et de Holly Lawrence. Donc, tout ça à mettre en place, bah, ça prend un peu de temps. Et puis... Il y a des erreurs, et les erreurs, elles ont été commises beaucoup, avec beaucoup d'impatience aussi, lors des trois premiers matchs, et aussi en Écosse. Mais malgré cette défaite, ils ont décidé de continuer sur cette voie-là, et ça a payé contre l'Irlande. Alors effectivement, ils ne font pas aussi n'importe quoi, ils peuvent aussi être très méchants et très violents dans les zones de combat, dans les rucks, avec le retour d'un joueur important, un mec qui s'appelle George Martin, dont je parle ce matin d'ailleurs dans un papier. C'est un type un peu à l'ancienne qui est là pour commettre les basses tâches dans le rugby et qui le fait très bien. Voilà, donc il y a un espèce de mix entre cette culture anglaise de bien défendre, de faire mal à l'adversaire, et l'autre aussi d'essayer de s'ouvrir, d'attaquer et de s'appuyer sur une jeunesse flamboyante. Donc le cocktail a parfaitement été réussi contre l'Irlande. Si vous n'avez pas vu le match, je vous conseille de le revoir, parce que c'était quand même vraiment fabuleux à voir et à vivre à Twickenham. Et ça laisse présager un super choc samedi. Franchement, j'espère que ce sera bien, et je pense que ce sera bien. Voilà.
Le problème, c'est que samedi, à la même heure, il y avait un match entre Clermont et Ohio, et tu as raté un grand moment. Franchement, c'était pas mal. Sur cette équipe anglaise, et tu le disais, il y a pas mal de jeunes, mais il faut rappeler aussi que cette équipe est un peu un tournant, parce qu'il y en a pas mal aussi des Anglais qui sont partis en France, certains qui ne peuvent plus jouer pour l'Angleterre, d'autres qui ne seront plus là dans quelques mois. Et c'est vrai qu'il a réussi, lui aussi, à puiser dans le réservoir. Il y a pas si longtemps, on se disait, mais l'Angleterre, où est-ce qu'elle va? Elle va dans le mur, ses meilleurs éléments, ils partent en France, à l'étranger, etc. Et Guillaume, c'est vrai qu'ils ont réussi à se renouveler un peu quand même.
Exactement. Alors, ils se renouvellent derrière. Troisième ligne, il n'y a pas de souci. Deuxième ligne, non plus, avec Martin, George Martin et Oli Chesson, qui sont très jeunes, et Itoje n'a que 30 ans. En revanche, la première ligne, c'est des papas, hein, parce qu'il y a Dan Cole, qui a plus de 110 sélections, qui est toujours là. Jamie George, le capitaine, qui a plus de 30 ans, qui a 88 sélections. Marler est toujours là, avec du haut de ses 91 ou 92 sélections. Marler, Cole, on n'est pas sûr de les voir à la Coupe du Monde dans 3 ans en Australie. Il y a un problème de renouvellement sur la première ligne. Donc Borswick tente de travailler avec les clubs sur ce sujet-là. Mais pour le reste, je ne suis pas du tout inquiet, même si Farrell a mis sa carrière entre parenthèses, même si Arundel a décidé de signer au Racing, Marchand. Là, il y a Ludlam qui a signé aussi à Toulon. Sinclair a signé à Toulon. Tout le monde part en France, mais bon, voilà, il reste encore pas mal de jeunes. Et il suffit aussi de voir ce que font les U20 anglais pour dire que cette équipe a de beaux jours devant elle.
La victoire là, contre l'Irlande, elle est venue d'un drop de Marcus Smith, même s'il ne faut pas minimiser la performance des autres. Il était le remplaçant de Ford, qui n'était pas dans un grand match non plus. Est-ce que Smith va être vraiment installé comme titulaire maintenant? Et qu'est-ce qu'il va devenir après la fin de la pause de Farrell?
Ça sera plus qu'une pause, Farrell, non? Parce qu'il faut rappeler qu'il va au Racing l'année prochaine, donc bye bye l'Angleterre aussi, non?
Pour l'instant, il a juste dit qu'il prenait une pause.
Il reviendra peut-être en 2026. Alors, enfin, si les Anglais brillent sans lui, j'imagine tellement mal aujourd'hui Borthwick lui ouvrir la porte. Après, Farrell a un tel charisme et une telle emprise sur le reste du rugby anglais. Peut-être que ce sera possible. Marcus Smith, c'est une bonne... question, et je ne sais pas ce qui va se passer samedi. Je sais qu'il y a beaucoup de mes confrères anglais qui poussent pour qu'il soit titulaire, mais même si Ford a raté quelque peu son match en manquant 7 points, ce qui aurait pu offrir à l'Angleterre une victoire un peu plus large, dans le jeu, il a tout sauf été ridicule. Son jeu au pied aussi de déplacement est remarquable. Il a un peu aussi modifié sa manière de jouer, se rapprochant de la ligne, jouant des passes plus au cordeau et s'appuyant sur la vitesse de garçons comme Freeman, Furbank ou la nouvelle pépite anglaise, Emmanuel Feyi-Wabozo, l'ailier qu'il y a à Cardiff. Donc je sais pas, il y a un gros débat. Et puis, comme je vous disais tout à l'heure, pousse aussi derrière un autre Smith, Finn Smith, fantastique demi d'ouverture de Northampton, 21 ans. Et je crois que Steve Borthwick croit beaucoup en lui, peut-être plus qu'en Marcus Smith d'ailleurs, parce que souvenez-vous, pendant la Coupe du Monde, c'était pas il y a 5 ans, hein, c'était il y a 3 mois. Pour Borthwick, Marcus Smith était surtout un magnifique arrière et la doublure de Freddie Stewart. Donc les voix des sélectionneurs sont souvent impénétrables et leurs choix parfois incompréhensibles.
En tout cas, si Marcus Smith est titulaire samedi, ça fera plaisir à pas mal de Toulousains, mais Dieu sait s'ils sont nombreux dans l'équipe. Parce que pour l'avoir croisé récemment avec les Harlequins, ce n'était pas très bien passé pour Smith. Hein.
Et voilà.
Et dans ce tableau très réjouissant dressé par Guillaume, les Anglais ont quand même un problème, peut-être la défense. 90 points encaissés depuis le début du tournoi. L'Irlande, c'est 47. C'est la seule équipe du haut de tableau avec un goal average négatif. Pourquoi c'est compliqué dans ce secteur-là? Pourquoi ils n'arrivent pas à régler le problème?
Guillaume, si je ne dis pas de bêtises, il y a Felix Jones qui est arrivé aussi, non?
Il y a Felix Jones qui est arrivé. Alors Felix Jones, c'est Monsieur Défense, le roi de la défense. Visiblement l'un des plus grands spécialistes de ce secteur dans le monde. Il a quand même largement contribué aux victoires des Springboks lors des deux dernières Coupes du Monde. Donc quand vous avez un nouveau coach de la défense qui arrive avec une nouvelle idée, il faut aussi un peu de temps. Il y a du progrès, mais il y a quand même encore quelques failles. Il y a des joueurs qui ne se replacent pas assez vite ou ne comprennent pas toujours... Le message de Felix Jones. C'est Nina Burr, l'ancien sélectionneur des Springboks, qui disait que pour avoir une bonne défense, il fallait au moins 14 matchs. Bon, on n'en est pas là à 14 matchs, hein, pour Felix Jones. Mais voilà, Borthwick dit qu'il n'est pas inquiet, et les joueurs aussi, qu'ils travaillent bien, qu'ils progressent. Mais malgré tout, on peut parfois, en défendant bien, tomber sur un ailier écossais surpuissant, capable de tout casser sur un match, ce qui fut le cas à Murrayfield il y a 15 jours.
Merci messieurs d'avoir été dans Crunch. Cette semaine, j'étais avec Laurent Cambisseron, Jean-François Patureau, Guillaume Dufy et avec Marie-Amélie Motte à l'enregistrement. On se retrouve la semaine prochaine pour le débrief du tournoi. En attendant, vous pouvez retrouver tous les articles de la rubrique rugby sur le site de l'équipe. N'hésitez pas aussi à regarder le replay du Salon Tactique sur notre site. Bon match,
allez-y,
bon crunch,
allez-y.
Et à la semaine prochaine.